Merci à Denis Mola, merci à tous les libraires de la librairie Mola, qui est très chère à notre cœur, d'avoir permis cette rencontre. Et merci à vous d'être venus. Je me présente tout de même parce que tout le monde ne me connaît pas. Je m'appelle Jean-Marie Laclastine, je suis écrivain bordelais et aussi éditeur de cet homme. Et par ailleurs, son ami depuis 30 ans. Nous allons bientôt fêter nos 30 ans d'amitié. Ça va s'arroser.
Ce soir même.
Voilà. On s'est connus en 87. Et comme nous avons un peu l'habitude de nous rencontrer en public, comme nous le faisons aujourd'hui, nous avons décidé de changer un petit peu notre façon de faire. C'est-à-dire que plutôt que d'opérer par questions-réponses très, très simples, nous avons choisi quelques passages du livre de Daniel, du dernier livre, le Camalocène, qui est un premier tome, ils m'ont menti, et ces passages concernent des thèmes importants dans le roman et dans le travail de Daniel. Donc je lirai un petit passage, après quoi il rebondira sur ce passage et sur les thèmes qui y sont évoqués. Ça permet à la fois d'être en contact directement avec la prose, avec l'écriture de Daniel Pennac, et puis d'être dans un système un peu moins banal, un peu moins figé que celui dont on a l'habitude. Voilà. Pour commencer, un passage qui concerne le changement très important qui s'est opéré dans le monde depuis le dernier Malocène. Il y a eu des épisodes successifs de la saga, ce qu'on a appelé la saga Malocène, et puis une assez longue interruption. Et pendant ce temps-là, le monde a continué de changer, les gens de vivre, les personnages du roman, enfin de la saga, d'exister, mais on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et donc, le premier passage que je vais lire concerne cela, ce changement dans le temps, ce grand bond en avant qui nous fait retrouver Benjamin Malocène 27 ans plus tard, donc un peu différent de celui que nous avons connu. Par les temps qui courent, moi, Benjamin Malocène, je vous mets au défi, qui que vous soyez, où que vous vous cachiez, quel que soit votre degré d'indifférence aux choses de ce monde, d'ignorer la dernière nouvelle, celle qui vient de sortir, la bien bonne, qui va faire causer la France et grésiller les réseaux sociaux. Choisissez le cœur de l'été, dispersez votre progéniture, laissez votre compagne, Julie, la journaliste à la coiffure de Lyon et au sein de légende, couvrir les sujets de son choix, refiler votre portable à un amateur de baltrap, retirez-vous à mille lieues de toute ville, ici, sur le toit du Vercors, à fond d'Urle, 2000 mètres au-dessus de tout. Choisissez un ami muet, Robert, par exemple. Il n'y a pas mieux pour la discrétion. Partez avec lui faire votre cueillette annuelle de myrtilles, peignez les buissons en silence, remplissez vos seaux en évitant de penser, même de songer, bref, œuvrez avec le dernier soin aux conditions de votre sérénité, eh bien, même là, au cœur de nulle part, parfaitement dissous en vous-même, vous n'empêcherez pas la dernière nouvelle de vous éclater aux oreilles comme un pétard de 14 juillet. Il suffit qu'un chien de traîneau un peu gêné sorte de son enclos, qu'il vous voit, qu'il parcourt ventre à terre les 100 mètres qui le séparent de vous, qu'il vous saute dessus toute langue dehors, poussé par l'atavique besoin d'affection de cette espèce inapte à la solitude canine, que le dit husky renverse votre seau de myrtille, en éparpille le contenu dans un fou trémoussement, anticipe la confiture en piétinant frénétiquement 5 heures de cueillette, que sur ses entrefaites une brebis égarée se mette à bêler, que le chien se fige, que le loup en lui dresse soudain les oreilles, que vous vous disiez « protégeons la brebis pour que le berger et le propriétaire du chien ne s'entretuent pas », que vous ôtiez votre ceinture pour improviser une laisse, que vous rameniez le chien à l'enclos, que vous y trouviez son maître, pas plus inquiet ni reconnaissant que ça d'ailleurs, son maître, cette cascade de dreadlocks vert de gris qui a tout largué depuis 15 ans pour venir s'oublier ici, pour que son maître, le moins communicant des exilés de l'intérieur, le plus étranger à ce qui advient hors de son champ de vision, pour que cet effacé absolu vous dise, en levant à peine les yeux sur vous, trop occupé à protéger de la tramontane naissante la bonne herbe qu'il roule en guise de tabac, vous dise d'une voix à peine audible « Tu sais pas la meilleure ?» Vous n'avez pas le temps d'objecter que les meilleurs vous dépriment, qu'il vous la sort en portant l'allumette à son cône. « On a enlevé Georges Lapieta. » Voilà. Donc, Georges Lapieta, personnage important du roman, Daniel va nous en parler. On reparlera du Vercors plus tard. Hein, mais parlons de Georges Lapieta, qui est une figure centrale du roman. Qui est-il et qu'est-ce qui fait que son apparition va déclencher une suite de cataclysmes dans lesquels Benjamin Malocène, bien entendu, et toute sa tribu vont jouer un rôle essentiel.
Alors, Georges Lapieta, Benjamin Malocène ne le connaît pas, ne l'a jamais vu. On a bien entendu parler comme tout le monde, plus ou moins, c'est un personnage plus ou moins public. Il a été ministre dans un temps. C'est un naufrageur d'entreprise qui revend, les restructure, les vide de son perdeur personnel, les restructure de nouveau, etc. Jusqu'à gonfler à bloc des fonds de pension dont il est un zélé serviteur. Et donc, ce gars-là se fait enlever. Malocène n'y est absolument pour rien. Il est vrai que à 2000 mètres au-dessus de tout, au milieu de nulle part, à Fondurle, dans le Vercors, qui est un endroit où je vais moi-même m'oublier très souvent dans l'année, on n'a pas envie d'entendre que Georges Lapieta s'est fait enlever. On a d'ailleurs envie de ne rien entendre, pour une fois, ne rien entendre. Ben, c'est pas possible. Ça n'est plus possible. C'était possible en 85, au début de la saga Malocène. Ça ne l'est absolument plus aujourd'hui. Il suffit que vous ayez un téléphone portable, il suffit que quelqu'un d'autre à côté de vous l'ait. Il suffit que quelqu'un soit à côté d'un tiers qui a, à un moment donné, sorti un portable. Et vous savez tout, instantanément, tout, y compris une nouvelle anodine qui ne vous paraît pas du tout mauvaise, comme ça, en passant, et qui pourtant vous plongera dans la pire des aventures. On a enlevé Georges Lapieta.
Qui est-il ? Qui est-il ?
Je l'ai dit.
Il rappelle certains personnages existants dans la réalité.
Pourquoi ? Qui ça ? Qui ça ? Disons que c'est un homme plein d'énergie, beau parleur, polyvalent, qui a été ministre, qui s'occupe de football, qui a, à un moment donné, été maire de Calais. Enfin, il a tout fait. Mais ça, c'est le propre des énergies, un homme énergique, vital. Et là, boum, voilà qu'il se fait enlever. Le jour même où il va rechercher le chèque de son parachute doré. Car en fermant la dernière entreprise, il s'est licencié lui-même, c'est la moindre des choses. D'ailleurs, il l'a dit à la radio, le matin suivant, Malocène allume la radio, boum, il entend la confirmation de cette nouvelle, et Lapieta dit que dans cette aventure, bien sûr, il y a eu 8207 salariés qui se sont fait licencier, mais lui aussi. Que dans cette aventure, ils ont tous pris le risque de vivre. C'est ce genre de type qui est assez convaincu de ce qu'il dit et qui va toucher 22 807 204 euros au titre de son parachute doré.
Le montant n'est pas anodin.
Et qui est à l'euro près, ça fait honnête. Ouais. Quand vous volez, il faut voler à l'euro près. Pas... Non, à l'euro près. Ça fait honnête. Et c'est ce qu'on appelle une retraite chapeau. Donc, Lapieta est venu toucher ce chèque et il se fait enlever le jour, juste avant d'arriver, tout ce chèque. Et les ravisseurs, les gens qui l'ont enlevé, vont demander ce chèque comme rançon. 22 807 204 euros, pas un euro de plus. D'ailleurs, en publiant, ah oui, ça on aurait pu parler de ça d'ailleurs, un manifeste qui justifie ce rapt et cette demande de rançon. On pourra lire ce manifeste à un moment donné, c'est édifiant politiquement.
Donc, tout de même, le montant de la rançon qui est tout à fait identique au parachute doré de la Pietà donne des indices peut-être sur le fait que les ravisseurs ont des motivations autres que l'argent.
Oui, on sent immédiatement que ce ne sont pas des ravisseurs qui enlèvent un homme de ce calibre pour ne demander comme rançon que le montant de sa retraite chapeau dans ce secteur, parce qu'il a énormément de chapeaux, il pourrait demander infiniment plus, indique que ce sont probablement des gens qui sont pour le moins dotés d'une conscience politique, et peut-être même d'une conscience morale.
On peut peut-être lire le manifeste ?
Si tu veux. Nous sommes en période électorale. Alors, attendu que le préambule à la Constitution de 1946 garantit à tous des moyens convenables d'existence. Attendu que cette résolution demeure en toutes lettres dans l'actuelle Constitution. Attendu qu'elle a néanmoins été abandonnée par nos gouvernements successifs, de droite comme de gauche, pendant ces trois dernières décennies. Attendu que cet abandon a pour cause l'allégeance de la force publique à la minorité des plus riches. Attendu que, durant ces 30 dernières années, les avoirs de la dite minorité ont enflé à proportion de l'accroissement vertigineux de seuil de pauvreté. Attendu que, conséquemment, nos gouvernements mènent une guerre ouverte aux pauvres, qualifiés d'assistés, plutôt qu'à la pauvreté, qualifiée de conjoncturelle. Attendu que le bénévolat prend partout le relais des missions de protection constitutionnellement dévolues à l'État. Attendu que, de ce fait, à l'universelle notion de solidarité, s'est substituée la très chrétienne, donc subjective, donc individuelle, donc aléatoire, notion de charité. Par ces motifs, nous, magistrats bénévoles, constitués en tribunal provisoire, avons procédé à l'arrestation du dénommé Georges Lapietta, prédateur notoire des catégories les plus démunies. Et nous, magistrats bénévoles, constitués en tribunal provisoire, informons que le dit Georges Lapietta ne sera remis en liberté que contre versement d'une rançon de 22 807 204 euros, somme correspondant au parachute doré touché par le dit Lapietta pour la mise à pied de 8 302 salariés du groupe Lava. Cette rançon sera remise à M. l'abbé Courson de Loire, autrement dénommé l'abbé, lequel abbé en disposera au profit des orphelinats, ateliers, centres d'accueil, dispensaires, entrepôts, restaurants et autres œuvres ou associations actuellement sous sa responsabilité. La rançon lui sera remise publiquement et en main propre par messieurs Paul Ménestrier, Valentin Ritzmann, André Versel et William G. Gonzalez, tous quatre administrateurs du groupe Lava. La cérémonie devra se dérouler sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris, dimanche prochain, à la sortie de la première messe. Nous, magistrats bénévoles, constitués en tribunal provisoire, condamnons en outre l'actuel gouvernement, réputé socialiste, a supporté seul le ridicule du premier enlèvement caritatif de l'histoire de notre justice. Voilà le manifeste.
On voit assez peu de curés, finalement, dans les Malocènes. Est-ce que ce n'est pas le premier, Courson de Loire ?
Attends, il faut que... Cette question me surprend, comme vous voyez, c'est pas... tout n'est pas préparé à l'avance. Non, oui, je crois que c'est le premier prêtre. Il est très bien, d'ailleurs.
Oui, c'est un sacré personnage. Ce n'est pas un curé typique. Mais justement, on ne va pas déflorer l'histoire pour ceux qui n'auraient pas lu le livre, mais puisqu'il y a une multitude de personnages comme celui-ci, Courson de Loire, mais aussi en premier lieu la tribu. Quand même, on va peut-être revenir sur la tribu malocène, les frères et sœurs. Qu'est-ce qu'ils sont devenus pendant tout ce temps-là?
Mais certains sont nés. Ils sont nés dans les précédents. Les personnages principaux de ce roman-ci sont nés dans les précédents romans. Et comme par exemple, la petite Verdun, qui est la sœur de Benjamin, la dernière sœur, la plus jeune sœur de Benjamin, est née dans la Fée Carabine il y a 29 ans. Elle a par conséquent 29 ans. Elle est devenue juge d'instruction. Je ne vous conseille pas d'avoir affaire à elle. Il vaut mieux être dans son camp que dans le camp d'en face. Elle instruit, elle est rigoureusement incorruptible et c'est un coffre-fort refermé autour du secret de l'instruction.
Elle va avoir un rôle très important à jouer dans le roman, la juge d'Alverne, la petite Verdun. Juste un passage, je lis quelques lignes sur elle et puis ensuite tu vas peut-être pouvoir nous la décrire plus en détail parce qu'elle est centrale. Je ne raconte pas pourquoi dans l'histoire, mais de par sa position de juge et puis sa position dans la famille. La juge Talverne rêvasse à l'arrière de la voiture sans se préoccuper de ce qui l'attend à l'arrivée. C'est même la première fois de sa carrière qu'elle roule vers le président Souzac sans remâcher trois ou quatre dossiers brûlants. Tout de même, ses gosses, ses neveux, cette nièce, aurait-elle jamais songé à rendre son tablier sans eux? Non. À coup sûr, non. Vieille juge légendaire, elle serait devenue. Elle l'est déjà, légendaire et vieille, en dépit de son jeune âge. Qu'est-ce donc qu'elle aime tant dans l'exercice de ses fonctions? Réponse, le droit. C'est le droit qu'elle aime, cette sédimentation de la raison sociale, la rigueur du droit, la loi, la mathématique appliquée à de l'informe, à du fluctuant, à de l'impulsif, à du brouillon, à de l'envie, du belliqueux, de la rouerie, du trop rigide ou du tordu, à de l'humain en somme. Une attaque à main armée avec un pistolet en plastique reste une attaque à main armée. Oui, monsieur. C'est ce qu'elle aime dans le droit. Le droit est le coffre-fort où elle a remisé ses ardeurs. Chaque matin, quand elle pénètre dans ce coffre, elle déclenche une douche froide qui la glace jusqu'au soir. Elle aime ça. Lucidité, voilà le droit. Et puis ceci, personne n'est juge naturellement. Être juge est un rôle, d'où son armure. C'est une étrange armure qu'elle se fabrique,
oui,
la
mais
petite
que
Verdun.
Il m'arrive de penser que j'aurais aimé faire du droit, précisément pour ça, parce que c'est de la mathématique appliquée à de l'humain. Verdun est de très loin la plus explosive de la tribu malocène. Elle est née en hurlant, d'où son nom, le nom de la bataille. Et dès qu'elle ouvre les yeux, quand elle était bébé, elle hurlait jusqu'au jour où un policier, l'inspecteur Van Tian, passe par hasard dans la maison des malocènes. Jérémy étant en train de faire chauffer un biberon, Verdun toute hurlante dans ses bras, le colle automatiquement à Van Tian qui passe. Il dit « Tenez-moi ça ». Et la gosse arrête de hurler entre les bras de cet homme de loi. Et elle va à cet instant même devenir juriste. Ça la calme, ça la calme. Et c'est bien. C'est bien. Et en même temps, elle sent que ce n'est pas sa personnalité et que d'une certaine façon, instruire, c'est instruire sous un masque, qui est le masque de la loi, qui est le masque de la mathématique appliquée à de l'humain.
Et pas seulement, ça va même plus loin, puisque c'est le masque qu'elle se crée, c'est un masque physique.
Ah oui, oui, alors oui, elle prend l'image au pied de la lettre. C'est-à-dire qu'elle c'est une jeune femme assez charmante. En fait, très vivante, très, mais qui, pour aller exercer son métier, se maquille. Et elle a un maquillage, elle se fait un maquillage qui la rend libidinalement, rigoureusement inabordable. Et quelquefois même, et on la voit à un moment donné se démaquiller pour redevenir la Verdun malocène qu'elle est. Et c'est épouvantable, ce démaquillage. Enfin, je ne voudrais pas vous dissuader de lire ce roman, mais quand même, il y a certaines pages qui sont assez répugnantes.
Non, ces passages-là sur la métamorphose de Verdun, de jolie jeune femme en épouvantail, sont absolument fascinantes, dans un sens comme dans l'autre. On aurait pu choisir un extrait comme ça, d'ailleurs. Alors, Verdun, les autres, on ne va pas tous les passer en revue.
Il y a tous les enfants qui sont nés dans les précédents Malocènes. Verdun était né dans la Fée Carabine. C'est un ange, fils de Clara et de Clarence de Saint-Hiver, directeur de prison. J'ai toujours eu beaucoup à faire avec la loi dans mon œuvre. J'avais imaginé dans la Fée Carabine, dans la Petite Marchande de prose, un directeur de prison qui faisait de sa prison une unité de production artistique dans tous les domaines. Musique, littérature, peinture, sculpture, etc. Et Clara Malocène était tombée amoureuse de ce directeur de prison, au grand dam de Benjamin d'ailleurs, qui a réprouvé absolument cette union, de laquelle va naître, c'est un ange. Les enfants Malocène ont des noms qui sont distribués par Jérémie, l'aîné, qui saisit en général la première expression que quelqu'un prononce à leur apparition. Alors on voit, c'est un ange net, et quelqu'un dit, oh, mais c'est un ange. Et Jérémie dit, c'est comme ça qu'on l'appellera. Il dit, comment tu l'appelles ? C'est un ange Malocène. Ensuite, il y a Monsieur Malocène, qui naît dans le roman éponyme, qui porte son nom. C'est un ange né et donc orphelin. Monsieur Malocène, lui, va naître de deux mères, déjà. J'étais très en avance. J'ai toujours été littérairement très en avance sur mon temps. Julie, en effet, a une complication. Elle fait d'une certaine façon une fausse couche, aidée médicalement par le chirurgien Berthold. Et au moment où le petit embryon sort, Berthold s'aperçoit qu'il est parfaitement normal, qu'il ne demande qu'à courir partout. Mais Julie est déjà partie. Sauf qu'arrive Gervaise, accidentée, qui a été renversée par une voiture, et le chirurgien Berthold confie le petit nouveau à l'utérus de Gervaise. Donc, Monsieur Malocène, fils de Benjamin et de Julie, naîtra de deux mères. De deux mères qui ont, à tour de rôle, réellement la mère de cet enfant. Le quatrième s'appelle Maracuja. Maracuja naît dans Au fruit de la passion. Et là, je ne peux pas vous dire qui sont les pères. Il y en a deux aussi. Mais je ne peux pas vous dire. Et ses enfants ont grandi. Maracuja a 17 ans et les autres ont respectivement 23, 20, 24 et 29 ans. Ils sont tous des tempéraments malocéniens, inventifs, créatifs, compassionnels. Et ils travaillent dans les ONG cet été-là. Dans le temps, quand j'étais petit, on confiait les enfants pendant les grandes vacances à leur grand-mère. Ou à des boîtes à bac, s'ils n'avaient rien fichu dans l'année, on les jetait dans le cul de basse-fosse d'une boîte à bac. Aujourd'hui, ce sont les ONG. Les ONG abritent beaucoup d'enfants bien élevés qui font le bien de l'humanité aux quatre coins du monde, ce que font les enfants malocènes, mais évidemment à leur façon.
Là encore, en dire plus serait dévoiler l'intrigue du roman, quoique le roman n'est pas terminé, puisque nous n'avons qu'un tome. Et il y a bien des surprises à venir, je pense. Mais sur la description des enfants, on va en rester là. Il y a un autre personnage extrêmement important dans le livre, qui s'appelle Alceste. À vrai dire, c'est la reine Zabot, l'éditrice, qui l'appelle ainsi. Et Alceste est un écrivain, un VV. Ce qui s'appelle VV dans le roman, c'est vérité vraie.
C'est la reine Zabot, dans les rapports qu'elle fait à ses employés, elle parle de ses VV, qui sont des écrivains de vérité vraie. C'est-à-dire que chacun d'entre eux est absolument persuadé d'être le seul au monde à parler au nom de la vérité.
Voilà. Donc, ils ne disent que la vérité, ils ne sortent jamais de la description de faits avérés.
Et... Ce qui leur attire énormément d'ennuis, et à leur éditeur aussi. Donc on est obligé de les protéger. Et le travail de Malocène dans ce roman est de protéger ces auteurs de vérité vraie, dont Alceste, qu'il cache dans le Vercors, dans une petite cabane, la cabane à Dédé, où moi-même je vais écrire quand ma maison est trop pleine, qui est dans une forêt, et Alceste est chargé de finir le roman qu'il est en train d'écrire, caché dans la cabane à Dédé.
Et donc, entre Alceste, l'écrivain de vérité vraie, très, très atrabilaire, toujours emporté contre son époque, contre ses semblables, contre sa famille, et Benjamin Malocène, qui est la gentillesse même, dans le fond, mais qui n'en pense pas moins, il y a une relation un peu difficile, disons, surtout de la part d'Alceste, parce qu'Alceste se souvient qu'il y a longtemps, Benjamin Malocène et sa tribu occupaient toute la scène littéraire et médiatique, et ça l'agaçait prodigieusement, parce que c'était évidemment tout à fait l'inverse de la littérature que lui, il estimait honorable. Alors, là, je lis un passage qui concerne cela, cette position d'Alceste par rapport à Malocène. Il se souvient à quel point il a lui-même a été obligé de convenir que c'était quand même pas si mal, les Malocènes. Quand je pense qu'un type pareil a servi de modèle à un personnage de roman et que pendant toute mon adolescence, ce personnage a fédéré le bas monde de la lecture d'agrément, la coqueluche de ces années-là, Malocène par-ci, Malocène par-là, il n'y avait pas moyen d'y échapper, c'était le cadeau de tous les anniversaires, les parents branchés en recommandaient la lecture au professeur. Quand Tobias et Mélimée ne me racontaient pas des mensonges sur l'histoire de notre famille, mes copains me bassinaient avec Malocène, l'ineffable bouc émissaire. C'était la coqueluche de mes sœurs, ce qu'elles pouvaient aimer ça. Stéphanie était amoureuse de Benjamin, bien sûr, et Marguerite de l'inspecteur Pastor. Selon leur tempérament, elles se déclaraient les meilleures amies de Clara, la photographe, ou de Luna, l'infirmière. La tendance de Geneviève à l'anorexie l'inclinait, bien sûr, à préférer Thérèse, la diseuse de Bonaventure. Mes frères aussi aimaient ça. Il y avait beaucoup de morts violentes dans les Malocènes. Et Mathieu, comme il l'a prouvé à l'enterrement de Tobias, n'a jamais été contre la mort violente. La vie, ça défouraille, mon petit pote. Une de ces devises viriles qu'il nous servait à nous les petits, généralement agrémentée d'un coup de coude qui nous cassait en deux ou d'une claque dans l'eau qui nous coupait le souffle. Mathieu, Pascal, Adrien, Baptiste, tous les quatre étaient malocénisés jusqu'à l'os. Et moi, est-ce que je n'attendais pas ma ration de malocénerie comme tout le monde ? Ma petite amie de l'époque m'en lisait à voix haute. Je l'ai laissé faire avant de m'enfuir quand je me suis aperçu qu'elle m'identifiait à Malocène jusqu'à l'orgasme. Qu'est-ce que je détestais le plus, au fond ? Que cet idiote de Bénédicte me lise la énième aventure de la tribu Malocène ou que Tobias et Mélimée nous mentent tour à tour de bras sur nos histoires de famille ? Là est la vraie question. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire, finalement ? Le mensonge de la fiction ou la fiction du mensonge ? Qu'est-ce qui m'a donné à ce point le goût de la vérité ? Pendant toute notre enfance, Tobias et Mélimée nous ont menti. Et j'aimais ça. Et j'aimais les lectures que Bénédicte me faisait des Malocènes. Si, si, quoi que j'en dise, j'étais tout à fait dans le mauvais goût du moment. D'ailleurs, je l'avoue, dans « Ils m'ont menti », je le reconnais, je ne m'épargne pas. Je ne me pose pas comme le moins con de ma fratrie, loin de là. J'ai aimé les Malocènes et j'ai aimé les mensonges de Tobias et Mélimée à proportion de la haine que je voue aujourd'hui à toute forme d'affabulation. Écrire, c'est écrire ce qui est, quel que soit le prix à payer. Alors, il y a une morale comme ça de la littérature, de la vérité vraie.
Oui, mais qui est réelle et qui est assumée par des tas d'écrivains officiellement, à la télévision, qui sont absolument persuadés qu'il n'y a pas de littérature hors le compte-rendu d'une réalité indiscutable. Et la Reine Zabot dit d'eux, c'est le point commun qu'il est... Elle dit de cette sensation d'être l'expression même de la vérité. La Reine Zabot dit c'est le point commun qui les différencie radicalement les uns des autres. C'est-à-dire qu'en même temps, comme chacun est convaincu d'être l'unique porteur, ça crée une atmosphère de travail un peu pénible dans la maison d'édition. Lorenza Bo a racheté tous ces auteurs de vérité vraie qui sont apparus, et ça c'est vrai d'ailleurs historiquement, après la chute du mur en 89, beaucoup de libraires et d'éditeurs se sont aperçus que leurs collections de sciences humaines et de sciences sociales, c'est-à-dire de réflexion sur le groupe, sur le nombre, sur la société, périclitaient. Et en même temps est apparu un genre que les critiques littéraires ont qualifié d'autofiction, où l'auteur était le sujet central de la restitution d'une vérité immédiate, environnante, qui était généralement celle de sa famille, etc. Et ce genre extraordinairement individuel, pour ne pas dire individualiste, s'est imposé pendant les 20 années qui ont suivi. Et Alceste est l'expression physique de ce genre dans ce roman.
C'est quand même très inattendu de trouver dans un Malocène un personnage comme ça, qui est un personnage presque théorique, en tout cas qui théorise beaucoup la littérature.
Oui, mais il est bien réel. Oui. Il théorise, mais il est à ce point réel que sa famille a quand même voulu l'enterrer vivant le jour de l'enterrement du père. On enterre le père adoptif de Tobias, et pendant qu'on enterre le père, son frère aîné précipite dans la tombe du père et les autres s'apprêtent à reboucher. Par bonheur, Malocène, chargé de la protection de ce garçon, est là, et les gens qu'il a chargé de cette protection le sortent de ce trou.
Mais on a quand même le sentiment, et c'est tout à fait captivant d'ailleurs, cette réflexion dans le roman, sur le roman, à l'intérieur du roman, on a l'impression qu'il y a de la part de Benjamin Malocène, enfin plutôt de son auteur, la volonté d'écrire une sorte de manifeste, parce qu'en se moquant de façon très, très fine et intelligente de cet Alceste qui professe une vision de la littérature extrêmement contemporaine, un peu sectaire, mais très, très argumentée, l'auteur, M. Daniel Pennac, en réalité, veut écrire un manifeste pour une autre littérature, qui serait la littérature du grand air, du récit, de l'aventure, de la surprise, et de la littérature que nous aimons.
Oui, mais c'est un vrai problème littéraire, le statut de la vérité. Dans le roman. Évidemment, Alceste est un personnage absolument imaginaire. La réalité qu'il va décrire est tout à fait... on peut la raconter d'ailleurs, c'est très intéressant. C'est un garçon qui a été adopté. Et ses parents, très gentiment, l'ont endormi tous les soirs en lui racontant la vie réelle de ses parents véritables, disparus des vulcanologues. Disparu dans l'explosion d'un volcan qu'ils étaient en train d'étudier. Et ses parents, 8 enfants adoptés, racontent à leurs 8 enfants, tous les soirs, pour les endormir, pendant toute leur enfance, la vérité sur leurs parents véritables, leurs parents biologiques. Et ça, pendant toute leur enfance. Et ils sont aux anges. Ils sont les plus heureux des enfants. Parce qu'il se trouve que leurs parents biologiques sont tous des gens exceptionnels, pas un salopard, des gens formidables. Et il se trouve que les parents adoptants leur racontent, leur font comme ça, célèbrent tous les soirs. Pour des orphelins, c'est merveilleux. Ils s'endorment tous les soirs avec, aux yeux, la vision de parents idéaux, angéliques, merveilleux. Or, un jour, à la fin des années 90, au début des années 2000, Internet saisit la Terre dans ce filet que vous connaissez tous bien, qui fait que tout ce qui s'est passé est nommé, tout ce qui a eu lieu est retrouvable, tout ce qui existe est désigné. Et évidemment, le matin arrive où Alceste, tapant sur Internet, tape le nom de ses parents réels et s'aperçoit qu'ils n'ont jamais existé, que tout ça est une fable et qu'il en va de même pour tous ses frères et sœurs. Là, il y a quand même de quoi vous convertir à la vérité vraie. Et il est tellement secoué par cette découverte qu'il va vouer le reste de son existence à la recherche de la vérité vraie. Il y a un traumatisme de base, comme très souvent d'ailleurs chez les auteurs d'autofiction. Très souvent, les auteurs d'autofiction, dans leur premier roman, décrivent un traumatisme de base. Or, Malocène, lui, qui est le personnage de fiction, dans son Vercors, avec le whisky qui court 100 mètres comme ça, qui piétine les myrtilles, etc. Tout ça, en revanche, est parfaitement vrai. Ce que le lecteur ne sait pas. Mais c'est ce qui m'est arrivé à moi. Tout ce qui se passe dans le Vercors et qui paraît absolument fictionnel et tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Un jour, avec ma femme, nous étions aux myrtilles et on voit deux whiskies qui nous regardent comme ça. Très loin, 100 mètres. Et je lui dis, ma chérie, n'aie pas peur. Des loups. Non, c'est pas des loups. Parce qu'il y a des loups aussi. Je lui dis, n'aie pas peur. On s'accroupit et on les attend, on les voit. Mais qui commence à cavaler. Je dis surtout, ne bouge pas, n'aie pas peur. On avait le saut de myrtille. Et il nous saute dessus, nous plaque par terre, il nous lèche la figure. C'est les whisky, ils sont comme ça. Le whisky a la faiblesse d'adorer l'homme. Ils se foutent sur la gueule entre eux, ils sont terrifiants les uns avec
les autres. Ça lui passera, Marc, ça nous reprenne.
Entre eux et les malamoutes. Et en réalité, donc tout ce qui paraît, c'est un jeu un peu hein, dans ce Malocène de l'auteur, tout ce qui paraît fictionnel ressortit plutôt à la vérité vraie, pour le coup, à la réalité telle qu'elle est, y compris la cabane dans le bois, y compris, etc. Y compris d'ailleurs la reine Zabot. Ce personnage de la reine Zabot, c'était une de mes amies qui est morte maintenant, malheureusement, que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Isabelle Jean. Elle était éditrice et elle avait publié Cabo Caboche, premier livre que j'avais écrit pour les enfants. Et elle avait détesté L'œil du loup. Elle dit, tu nous emmerdes avec tes contes moralisateurs, c'est stupide, ça n'a aucun sens, tu casses les pieds, t'es mollasson. Ça, je dis, mais tu vas le publier quand même. Non, si. Mais si, pourquoi? Mais tu sais bien pourquoi. Si tu vas le publier, parce que tu m'aimes et que je t'aime. Oh, tu nous emmerdes avec tes sentiments. Elle l'a publié. Et c'était c'était une femme merveilleuse. Et je lui dis, d'ailleurs, je vais te mettre dans les Malocènes. Ah bon, en qualité de quoi? Ben, en qualité d'éditrice. Et je ressemblerai à quoi? Tu ressembleras à une psychanalyse réussie, ce que tu es. Il n'y a plus que la tête. Le corps est rayé de la carte, il n'y a plus que la tête. Et alors, elle était complice de son propre portrait en reine Zabot dans les Malocènes. C'est ça, c'est absolument passionnant, ce jeu, constamment, cette interaction entre la fiction, la vérité, la cohérence. C'est ce qu'il y a de passionnant en littérature. Et le roman est le genre qui permet la saisie de tous ces paradoxes. Parce que c'est de l'eau, le roman. Ça s'insinue partout. C'est un genre sans forme qui peut prendre absolument toutes les formes. Qu'on arrive à leur remettre des petites digues par-ci, des petits barrages par-là, comme ça. Bon, on contrôle, plus ou moins. Quand c'est réussi, c'est plutôt bien contrôlé. Et ça entre, cette eau entre dans tous les interstices. La psychanalyse, la politique, l'économie, la vérité absolument intime. Insoupçonnable. Là-dedans, il y a des choses qui me concernent directement et qui sont parfaitement insoupçonnables par le lecteur. Parce que le lecteur est entraîné vers le thème de la vérité vraie incarné par Alceste. Lequel Alceste existe ? Un jour, j'ai quitté un appartement. Nous avons, ma famille et moi, quitté un appartement. On l'a où un gars nous a remplacés qui était écrivain. Mais dans l'année qui a suivi, on lisait dans un roman La vie des voisins du dessous. Alceste avait œuvré.
Alors, ce qui est formidable, c'est qu'on a l'impression, à t'entendre parler ou à nous entendre discuter, que le roman n'est pas vraiment un roman, c'est une sorte de méditation sur la littérature, sur la philosophie, sur la France, sur le temps qui passe, mais pas du tout. Hein. C'est vraiment un roman qui comme les précédents Malocène, est une cavalcade anecdotique, mais elle est nourrie justement par une réflexion très, très humaine et très profonde.
Et c'est un roman noir, c'est un roman policier, oui. comme tous les Malocènes, c'est un roman noir.
Oui, il y a une base en partie oui, policière, qui est même très importante, parce que c'est celle qui donne le muscle, la tonicité au récit, mais il y a beaucoup de... C'est une arborescence extrêmement riche. Et il y a un thème... Nous avions prévu d'aborder un certain nombre de thèmes. Le temps passe et nous n'aurons pas le temps de tout aborder, mais il y a un thème très important dans ce roman-ci, comme dans les précédents, et dans d'autres, dans des bandes dessinées, puisque tu œuvres dans divers registres. Hein. Je pense à un amour exemplaire qui est paru assez récemment, c'est l'amour. Donc le thème de l'amour qui court d'un roman à l'autre, qui baigne tous les personnages parce que ils sont tous concernés par le sujet. Et nous parlions tout à l'heure de Georges Lapieta. C'est-à-dire même les personnages qui sont a priori négatifs, c'est un abominable salopard quand même, ce Lapieta. Il a avec sa femme une relation qui est édifiante et qui fait que édifiante parce que c'est une relation amoureuse très très intense et magnifique et qui fait qu'on ne peut pas le détester complètement. Et cette femme qui s'appelle Ariana
Matas, c'est voilà. Son jeune fille, Ariana Matas.
Oui. Donc, il se trouve que Titus, un des personnages récurrents...
Qui est un inspecteur, qui est un capitaine de police.
Capitaine Titus connaît bien Ariana, puisqu'il est cousin avec elle, hein, c'est ça ?
Non, il l'aidait à faire ses devoirs quand elle était enfant, voilà. À hasard.
Oui. Donc, là, je lis un petit passage où il retrouve, pour les besoins de son enquête sur l'enlèvement de Georges Lapieta, il va voir... Ariana, il retrouve cette fille qu'il a connue au collège.
Et qui était une brindille sans forme, sèche comme un cotteret, comme ça. Et donc, c'était la sœur d'un de ses copains d'école. Voilà. Donc lui allait voir le copain, il faisait les devoirs de la petite.
Il la retrouve, il est surpris. Voilà. Titus se souvenait à présent. Parce que à 14 ans ou 15 ans, la gamine était toute en bras, en jambes, avec un buste ficelle, un de ces moustiques filiformes et démesurés qui ne piquent pas. Titus l'avait aidée à faire ses devoirs deux ou trois fois, c'est vrai, en allant rendre visite au GECO, sans rien demander en retour. Allusion d'Ariana à certaines monnaies d'échange qu'exigeaient les boutonneux de sa classe. La liberté buccale d'Ariana désolait son frère. Le pire, disait le GECO, c'est qu'elle n'y voit aucun mal. « C'est normal, il m'a fait mes maths !»« C'est pas possible, songeait Titus. La vie a beau passer sur le corps, elle vous métamorphose pas à ce point. » Il lui demanda de but en blanc. « Quand tu te regardes dans la glace, mon petit cousin, tu te reconnais ? Je veux dire, la gamine que tu étais, tu la retrouves ? Je me regarde rarement. » Tout à fait impossible. Quand on veut à ce point ressembler à une image, on joue forcément du miroir.
Il faut dire qu'elle est adulte, la sosie de Claudia Cardinale est dans Il était une fois dans l'Ouest. Ah. Si vous voyez, c'est pas un cousin.
Titus, tu vois une glace autour de toi, une armoire, une psyché, quelque chose du genre, même au plafond ? Non. Tenture, rideaux, chinoiserie, accumulation d'anticailles pseudo-asiates, faux désordre, assez peu de lumière, éclat d'or, reflet de soie, pourpre laqué. Du chaud plus que du lumineux, de l'enveloppant, du somptueux confiné. Pas de miroir. avec ta gueule à la Christopher Walken et ton par-dessus en cachemire, je suis sûr que tu te regardes plus souvent que moi dans la glace. Dis-moi non pour voir. Il dut admettre qu'il s'était fait une petite beauté avant de venir. Tu vois ? Moi, c'est le matin que ça se passe. Dans la salle de maquillage, Georges, la Pietà, me fait cette tête-là tous les matins depuis notre rencontre. À l'âge où ça s'est mis en forme autour de mon squelette, je ressemblais un peu à la Claudia Cardinal d'Il était une fois dans l'Ouest, c'est vrai. Il a fait le reste. Aujourd'hui, j'en ai pour 3 heures minimum, c'est un peu plus long chaque année, mais Georges prétend qu'il y arrivera jusqu'au bout. Alors, elle aussi, elle se maquille, comme Verdun.
Oui, elle est quand même pas d'un elle n'est pas d'un féminisme échevelé, quand même. Elle se laisse transformer tous les jours en une image par ce type qu'il adore. Il est vrai, mais
c'est réciproque.
C'est réciproque. Oui, oui.
C'est même une passion qui va aller très loin, parce que quand Georges Lapieta est donc séquestré par on ne vous dira pas qui.
Oui, c'est un,
il conserve avec quelle.
C'est un exemple d'amour qui suffit à lui-même. J'ai vécu ça quand j'étais enfant. Tu faisais allusion à la bande dessinée. Un amour exemplaire. Quand j'étais gosse, il y avait à côté de chez ma grand-mère un couple de gens qui étaient déjà vieux, ils avaient plus de 60 ans. Et, ben oui, c'est-à-dire plus à peu près mon âge, enfin oui, je suis même plus vieux que ça encore. Et donc, ils étaient vieux pour le petit enfant que j'étais, moi j'avais 8 ans. Et ils étaient rigoureusement occupés à s'aimer d'un amour absolument improductif. Et alors, la bourgeoisie ambiante autour les détestait. Alors j'entendais, moi j'étais enfant, j'entendais, oui, bah bien sûr, il lui a pas fait d'enfant, il est bien trop égoïste. Comme ça, à table. Ou alors, il n'a jamais travaillé de sa vie. Beaucoup trop paresseux. Et évidemment, moi je passais mon après-midi chez eux, et je leur disais, Jean, c'est vrai que t'as jamais travaillé? Et Jean disait, mon garçon, en amour, le travail est une séparation. Ou à Germaine, je disais, mais Germaine, pourquoi vous n'avez pas d'enfant? Mon petit, en amour, pas d'intermédiaire. Et c'est un peu, le couple Lapieta, ils sont un peu comme ça, c'est des amoureux absolument improductifs. Lapieta fait des affaires par ailleurs.
Mais c'est quelque chose.
Mais j'ai toujours été fasciné par les gens qui s'aiment, à vrai dire.
Oui, justement, c'est un thème qu'on retrouve de façon très systématique dans tous les Malocène et dans tous tes livres, d'ailleurs. C'est l'amour ou l'amitié ou les relations interpersonnelles comme un rempart contre la société.
Ce sont des actes de résistance. L'amour est un acte de résistance majeur. Mais vraiment, vraiment. Et l'amitié aussi. Et en plus de ça, l'amitié est aussi un acte de résistance qui repose de l'amour. Réfléchissez là-dessus. C'est vrai.
J'espère que nos femmes n'écoutent pas.
Ce sont des actes de résistance où nous sommes, pourvu que nous nous y tenions, nous sommes très solides. L'amour nous rend très solides, très peu dupes. Période électorale, par exemple, c'est très intéressant d'être amoureux de sa femme et d'avoir des amis. Ça rend peu dupes.
Juste alors, une toute petite chose. Tu as parlé tout à l'heure, tu as prononcé le mot de cohérence. Et il y a un personnage dans les Malocènes qu'on retrouve ici, qui s'appelle Coudrier.
Oui, qui est un commissaire divisionnaire de police, qui est d'une certaine façon le père spirituel de Malocène. Enfin, il a pris Malocène sous sa protection. Ouais.
Et lui, il a une certaine idée de la cohérence, mais c'est très important parce que c'est une vision à la fois de la justice, mais aussi de la littérature, dans le fond. Ça pourrait s'appliquer au roman. D'après Coudrier, tout enquêteur bosse comme un romancier. Il cherche la cohérence. Coudrier affirme que les erreurs judiciaires procèdent presque toutes d'un excès de cohérence romanesque. À tous les niveaux de l'enquête, gendarmerie, police judiciaire, instruction, expertise psychiatrique, jusque dans le prétoire, chacun s'acharne à bâtir une histoire plausible, à créer une chaîne logique entre de supposés mobiles et de prétendus passages à l'acte. Quand ça cloche un peu, on force, sans trop nous en rendre compte, et on fout en tôle le suspect le plus logiquement compatible. On cherche la cohérence, quoi. Selon Coudrier, il n'y a pas de meilleure recette pour fabriquer une erreur judiciaire. Et Malocène en sait quelque chose.
Oui, oui. C'est pour ça que le roman s'appelle Le cas Malocène, parce que pour le divisionnaire Coudrier est en train d'écrire un essai sur les dangers de la cohérence en matière d'erreur judiciaire, et il prend Malocène comme exemple. Toute sa vie, il a vu ce garçon, ce qui semblait incarner la culpabilité en permanence et qui était l'innocence même. Et il en faisait un cours magistral à tous les flics qui passaient sous sa juridiction. Et voilà, il apprenait aux policiers à ne pas se laisser immédiatement happer par les apparences de la cohérence. Il donnait Malocène comme exemple. C'est le... D'ailleurs, le roman porte deux titres. Le cas Malocène, qui est l'essai écrit par Coudrier, et Ils m'ont menti, qui est le roman écrit par Alceste. Il n'y a rien de moi là-dedans. Tout est...
Mais alors justement, est-ce que la cohérence, ça n'est pas pour le romancier également un danger, l'excès de cohérence? C'est-à-dire que le romancier, il a tendance à vouloir boucler son histoire de façon la plus parfaite possible, mais s'il le fait, s'il pêche par excès de cohérence, peut-être que ça empêche aussi la vie de circuler dans le...
Oui, si les ficelles sont trop visibles, mais même s'il n'y a pas de ficelle, à partir du moment où tombe le point final, c'est ce que le capitaine Titus dit d'ailleurs à son collègue Silistri, il dit « Mon vieux, la cohérence, c'est quand tout est fini ». On ne peut pas parler de cohérence avant notre mort. Et dans nos propres vies, si nous faisions de façon lucide et calme le pourcentage de ce que nous devons à la cohérence entre ce que nous avons vécu et ce que nous avons décidé de vivre, je suis sûr qu'on ne dépasserait pas les 10%. Il y a 10% de cohérence, tout le reste, c'est du hasard, de l'occasion, de l'opportunité, du... si je sors d'ici et qu'une brique me tombe sur la tête, on arrive à la cohérence finale. Et on a très souvent vu, nous avons vécu, regardez par exemple cette affaire judiciaire épouvantable qui était l'affaire d'Outreau. De quoi s'agissait-il? Pardon? Oui, on va. Non, je vous passe l'exemple, il est un peu long. Mais bon, bref. Non, mais parce que c'est intéressant, on a tous vécu ça et nous y avons vu que du feu, autant que nous étions. Nous étions devant nos télévisions et on voyait cette affaire se dérouler où des gens, une douzaine de personnes, sont allées en prison parce qu'un juge d'instruction les avait vus fréquenter un appartement où deux parents débiles faisaient faire des choses épouvantables avec leurs enfants. Très bien. Ces 12 personnes étaient là et sont toutes allées en prison. Or, en regardant cette affaire de près, le premier jour de la télévision, on était ensemble, on se dit, maintenant, l'huissier est venu là pour déposer des plaintes, le boulanger fréquentait cette famille pour apporter le pain, le curé, l'assistante sociale. Et on s'est aperçu que toutes les personnes qui étaient là pour une raison très précise, liée à son métier personnel. Combien y avait-il de chances sur 1000 pour que ces personnes soient pédophiles toutes? Aucune. Aucune. Mais la cohérence, c'est vraiment un travers judiciaire étrange. La cohérence préalable a fait que tous ces gens sont allés en prison. Où ils ont été déclarés innocents, bien entendu, mais longtemps après. Après le traumatisme de la prison, etc. Fin de la péroraison.
Merci d'avoir été
merci à vous. Merci.